Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Alfred Hitchcock, période Selznick, avec Jean-Loup Bourget, Nicolas Saada et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. La figure du producteur n'a pas attendu l'affaire Weinstein pour avoir mauvaise presse, grossier, ennemi de l'artiste, seulement soucieux de son retour sur investissement. Il est celui contre lequel le cinéaste se doit de résister pour imposer sa vision. Dans sa version hollywoodienne, pendant l'âge d'or des studios, il est le mogul, le nabab tout-puissant pour qui stars, scénaristes et réalisateurs sont corvéables à merci, de simples employés et des rouages parmi tant d'autres d'une implacable machine, celle à produire des rêves. Et pourtant, les Louis B. Mayer, Irving Thalberg, Daryl F. Zanuck et autres David O. Selznick avaient une vraie vision du cinéma qu'ils portaient et contrôlaient dans leurs moindres détails, et leur dialogue, souvent tendu, parfois fécond, avec les plus résolus des cinéastes, accoucha de bon nombre de chefs-d'œuvre. C'est une de ces histoires que va vous conter Plan Large aujourd'hui, comment l'association entre deux manières du contrôle aux personnalités opposées, l'un très impétueux, l'autre tout autant flegmatique, poursuivi et produisit en l'espace de 7 ans, pour le meilleur et pour le pire, Rebecca, la maison du docteur Edwards, les enchaînés et le procès Paradine, le petit dernier, le mal-aimé, qui reste toutefois largement à reconsidérer. Quand le chef d'orchestre d'autant en emporte le vent, l'insomniaque aux mémos interminables, rencontre le futur totem de la politique des auteurs, c'est ce que raconte un somptueux coffret DVD Blu-ray Ultra Collector qui vient de paraître chez Carlotta avec Force Supplément et un livre de 300 pages, Alfred Hitchcock, les années Selznick. Pour le décrypter avec nous, Jean-Loup Bourget, professeur, historien et critique de cinéma, à Positif et qui signe chez Vendémiaire une étude fouillée de Rebecca et deux inconditionnels du cinéma de Hitchcock en général et des enchaînés en particulier, le cinéaste Nicolas Saada, ancien critique au cahier du cinéma, comme quoi Plan Large est tout à fait œcuménique, et notre chroniqueur Mathieu Macheret qui en fin d'émission nous fera partager sa lecture du nouveau regard que porte Bernard Benoliel sur un autre grand classique du cinéma américain, Taxi Driver de Martin Scorsese, un essai qui vient de paraître chez Yellow Now.
And now just before you ring up the curtain on the first act, will you give us a word or two about the play?
Gladly, Mr. Hill, but if you'll pardon me, it's not a play, it's a story. You see, I think that radio broadcasting is different from motion pictures and the theater, and I'd like to keep it that way. The Campbell Playhouse is situated in a regular studio, not a theater. We have no curtain, real or imaginary, and as you see, no audience. There's only one illusion I'd like to create, the illusion of the story. And I'd like to say how very fortunate I am in having with me tonight the loveliness and the magic gift of Miss Margaret Sullivan. For Miss Sullivan is my first choice for a great part, and a great part it is too. The most coveted of the season, the Scarlet O'Hara of 1938, the heroine of Daphne du Maurier's best-selling novel, Rebecca. Rebecca is going to be made into a movie by David Selznick. It ought to be one of the 10 best. It's this year's contender for the 5-foot shelf, your best bet for anything from a weekend to a desert island, and it's a book you should read. The ideal Christmas gift to yourself. Miss du Maurier has flattered me with her confidence in permitting the Campbell Playhouse the great privilege of making for radio the first dramatization of her book. I'm meeting her for the first time tonight before this broadcast is over by special shortwave communication. She'll speak to us from London. So, ladies and gentlemen, and Miss du Maurier, the Campbell Playhouse is obediently yours.
Voilà qui pourrait paraître étrange, commencer une émission sur Hitchcock avec la voix d'Orson Welles. C'était le 9 décembre 1938 sur CBS, dans une émission sponsorisée par une marque de soupe qu'Andy Warhol rendra très célèbre, The Campbell Playhouse. Et Orson Welles, qui n'est pas encore à cette époque le réalisateur de Citizen Kane, mais déjà un grand homme de radio, présente à la radio donc son adaptation du best-seller de Daphné du Maurier, Rebecca, bien avant que soit mis en production le futur classique d'Hitchcock. Alors si on diffuse cette archive, ce n'est pas seulement pour l'anecdote, c'est parce que pour Selznick, qui a été cité par Orson Welles, hein, annonçant la mise en chantier d'un film par Selznick, pas du tout par Hitchcock. Selznick, donc le producteur du film Rebecca, l'adaptation par Welles de ce roman est un modèle à suivre, Jean-Loup Bourget.
Oui, mais c'est très intéressant d'avoir entendu cet extrait radio, puisque justement, c'est aussi une manière de faire de la publicité pour le film que Selznick met en chantier, et avec Hitchcock. Ça, c'est entendu dès le début. Selznick a fait venir Hitchcock à Hollywood sur... l'idée de l'un ou l'autre projet, ou éventuellement les deux, un premier projet sur le Titanic et l'autre projet auquel ils ont pensé séparément, c'est l'adaptation de Rebecca.
Parce qu'il y avait déjà eu un combat pour obtenir les droits de Rebecca.
Tout à fait.
Hitchcock avait voulu l'acheter, Selznick avait plus d'argent.
Selznick l'a emporté, il avait plus de moyens que Hitchcock. Donc le deal est conclu à ce moment-là, et il y a quelque chose de très intéressant qui est d'une part que Selznick se rend parfaitement compte que une émission d'Orson Welles, une adaptation radiophonique, comme Welles vient de le dire lui-même, c'est pas une pièce radiophonique, c'est plutôt comme un roman dont l'héroïne raconterait elle-même l'histoire, conformément à la technique de Daphné du Maurier dans son roman. Donc Selznick a très bien compris que ça ferait de la pub au film qu'il va mettre en chantier. Le fait que ce soit Margaret Sullavan qui interprète l'héroïne, qui ça sera Joan Fontaine évidemment à l'écran, mais elle a été effectivement considérée. On a gardé d'ailleurs des bouts d'essai de Margaret Sullavan
qu'on trouve dans le coffret.
Carlotta. Et bien sûr, c'est Orson Welles qui a toujours le premier rôle dans ces émissions radiophoniques qui jouera, lui, Maxime de Winter. Mais donc, Selznick, très habilement, a vendu les droits pour une somme tout à fait raisonnable, en pensant que ça serait tout bénéfice pour le film futur. Et effectivement, Welles joue le jeu en disant c'est la recherche de la Scarlett O'Hara de 1940 finalement, puisque Autant en emporte le vent, c'est 39, et Rebecca, ce sera l'année suivante. Mais aussi, ça va être un argument très fort de Selznick quand il rejette le premier scénario de Hitchcock.
Qui a pris certaines libertés avec le roman, ce que lui reproche Selznick.
Qui a pris toutes sortes de libertés, qui n'a pas, on le sait par les entretiens de Hitchcock avec Truffaut notamment, il considère que ce roman est très médiocre, en quoi, à mon avis, il a tort. Et Selznick lui dit « Désolé, mais vous n'avez rien compris. Ce dont les lecteurs et surtout les lectrices se souviennent dans Rebecca, c'est que Rebecca n'apparaît jamais et qu'on ne sait pas le nom de l'héroïne narratrice. C'est toujours « je ». Il ne faut pas lui donner de nom. » Et il lui envoie un enregistrement de l'émission de Welles en lui disant « Mais Welles a fait une adaptation tout à fait remarquable en s'en tenant au procédé utilisé par Daphné du Maurier et en reprenant, évidemment, en les simplifiant, les dialogues qui sont dans le roman. Vous allez faire la même chose. Ce qui a marché avec les lecteurs, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas avec les spectateurs et les spectatrices.
Ah, il faut dire, Nicolas Saada, que David O. Selznick est un producteur assez particulier dans le système hollywoodien. Il est à la fois dans et en dehors des studios. C'est un des premiers grands producteurs indépendants.
C'est un des premiers grands producteurs indépendants. Surtout, moi, je suis absolument oscille à cette idée qu'un producteur est forcément un ennemi pour un cinéaste. C'est quelqu'un qui, au contraire, peut être très utile au cinéaste. Il y a les bons producteurs, les mauvais producteurs, comme il y a les bons cinéastes et les mauvais cinéastes.
Vous parlez en tant qu'ancien chargé de programme aux côtés de Pierre Chevalier à l'unité.
Ancien chargé de programme, sans doute, aussi, en tant que réalisateur aussi. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir face à soi quelqu'un avec qui on a un dialogue, on a même un peu de rhétorique, mais c'est très important parce que on est tout seul et c'est pas non plus extraordinaire. Mais je crois que le problème de Selznick est presque c'est quand même un cas particulier, Selznick. Je ne comparerais pas du tout Selznick à Daryl Zanuck. Je trouve que Daryl Zanuck, c'est vraiment un génie de la production parce qu'il venait de la presse et qu'il a cette espèce de passé d'homme de presse qui fait qu'il cherche les bons sujets, puis après, il lance des cinéastes. Daryl Zanuck, il a lancé quand même Kazan, entre autres. Hein. Donc, Selznick, c'est pas ça. C'est vraiment ce qu'on appelle aux États-Unis le control freak. Et moi, je rapprocherais beaucoup Selznick de ce qu'on voit aujourd'hui dans la télévision américaine, c'est-à-dire les showrunners. Aujourd'hui, les séries américaines, elles sont aux mains de ce qu'on appelle le showrunner. C'est quoi un showrunner dans une série américaine? En général, c'est celui qui a l'idée de la série, qui écrit les scénarios de tous les épisodes, qui, à la limite, en réalise un ou deux, mais il a le contrôle absolu sur la façon dont c'est filmé, casté, monté, mis en musique. Et je pense que Selznick, aujourd'hui, il serait le prince de la télévision américaine. Il avait une attitude sur les projets qui était celle des showrunners des séries américaines d'aujourd'hui.
Ce qui fait que ça pose une vraie question.
Bah, ça pose une vraie question.
Très intéressante pour un Hitchcock, qui est considéré comme l'auteur avec un A majuscule, vraiment la première figure qu'on a totémisée comme auteur au cahier du cinéma. C'est par exemple pour Rebecca, qui est l'auteur de Rebecca.
Ah ben bah ça, c'est à Jean-Luc Bourget de le dire. Hein.
Bon, c'est ce que j'ai essayé de...
La question oui, vous prenez plusieurs dizaines de pages pour y répondre dans votre livre.
Répondre dans le livre. Et la réponse me paraît finalement assez évidente. Rebecca a plusieurs auteurs et pour commencer, il y a deux auteurs, il n'y a aucun doute, Hitchcock et Selznick. Parce que je pense que les interventions de Selznick, globalement, évidemment on ne saura jamais quel aurait été le film que Hitchcock aurait réalisé sans ses interventions. Mais je pense que globalement le film est meilleur grâce à ses interventions. Et je pense d'autre part qu'effectivement, on caricaturerait Selznick en ne le voyant que comme une sorte de mégalomane et qui tyrannisait ses metteurs en scène. C'est pas du tout le cas. Le problème, c'est que Selznick lui-même était un auteur. Et pourquoi est-il entré en conflit avec Cukor sur Autant n'emporte le vent, avec Hitchcock de façon plus feutrée, mais enfin tout de même, sur Rebecca, ou encore avec King Vidor sur Duel au soleil, parce que lui-même était un auteur, parce qu'il était toujours présent sur le plateau, et parce qu'il avait des idées très arrêtées sur ce à quoi les films devaient ressembler.
Ce qui fait que dans les entretiens entre Hitchcock et Truffaut, hein, qu'on retrouve en version audio dans le coffret de Carlotta, on les avait entendus sur France Culture grâce à vous, Nicolas Saada, et vous les commentez également dans le coffret, Hitchcock va dire à Truffaut, ce n'est pas un film d'Hitchcock. Rebecca, pour tout le monde, Rebecca, c'est un film d'Hitchcock. Non, ce n'est pas un film d'Hitchcock. Il dira, Rebecca est une histoire qui manque d'humour. Alors, Rebecca est-il, oui ou non, un film d'Hitchcockien? Il y a quand même des éléments qui ont valeur de signature.
I'm awfully sorry, darling. It's very careless of me. Mrs. Danvers must be furious with me.
Oh, hang Mrs. Danvers. Why on earth should you be frightened of her? You behave more like a upstairs maid or something, not like the mistress of the house at all.
Yes, I know I do. But I feel so uncomfortable. I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.
Well, what does it matter if they do? You must remember that life at Mandalay is the only thing that interests anybody down here.
What a slap in the eye must have been to them then. I suppose that's why you married me. Because you knew I was dull and gauche and inexperienced and there could never be any gossip about me.
Gossip? What do you mean?
I don't know. I just said it for something to say. Don't look at me like that. Maxim, what's the matter? What have I said?
Wasn't a very attractive thing to say, was it?
No. It was rude, hateful.
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.
How do you mean?
I'm not much of a companion to you, am I? You don't get much fun, do you? You ought to have married a boy, someone of your own age.
Maxim, why do you say this? Of course we're companions.
Are we? I don't know. I'm very difficult to live with.
No, you're not difficult. You're easy, very easy. Our marriage is a success, isn't it? A great success? We're happy, aren't we? Terribly happy.
Notre mariage est un succès dont nous sommes terriblement, terriblement heureux. Scène extraordinaire entre John Fontaine et Laurence Olivier, la seconde Mrs. de Winter et Maxime de Winter. Alors là, apport purement hitchcockien dans un film qui traite, comme beaucoup de films d'Hitchcock, de la confrontation d'un imaginaire et du réel. Ils sont en train de regarder un film de famille, un home movie. Ce sont les images de leur voyage de noces. Et ça, c'est évidemment un pur apport hitchcockien, Mathieu Macheret.
Oui, de toute façon, c'est une scène qu'on peut identifier, à même étendre à beaucoup d'autres films d'Hitchcock, à commencer par L'ombre d'un doute, par exemple, enfin, et même Rebecca, sans doute s'il est le film le plus mêlé d'Hitchcock, comme on l'a dit, à cause de l'influence de Selznick, mais aussi peut-être à l'appartenance d'un sous-genre un peu tacite dans l'histoire du cinéma hollywoodien, qui serait le film d'emprise, et notamment d'emprise féminine, hein, ces femmes qui sont piégées dans une grande maison, comme ça, et dont le mari les manipule et les enferme dans une espèce d'hypnose comme ça.
Ouais, comme Mankiewicz fera le château de l'araignée, il fera très attention de ne pas trop faire comme dans Rebecca.
Il y a Antiques de Kilgore aussi, il y a le film de Tourneur, là, Angoisse.
Ouais, Barbe bleue. Hein.
Ouais, une mère. Bleue, ouais.
Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des éléments typiquement hitchcockiens. Évidemment, le soupçon qui pèse en permanence comme ça sur le personnage de Maxime, les signes qui sont disséminés à l'intérieur de cette maison et qui dessinent comme une sorte de cheminement secret. Bon, c'est un film vraiment composite, je crois qu'on peut dire, Rebecca. Hein. C'est une sorte de compendium d'influences diverses qui est traversé à la fois par le genre, par l'influence de son producteur et par, oui, bien sûr, la façon, le savoir-faire de son réalisateur qui insuffle aussi, évidemment, une part de lui-même.
Nicolas Sada.
Il faudrait que je pose la question à Jean-Loup Bourget, en fait, mais Hitchcock, c'est quand même un cinéaste qui était connu pour, comme on dit, ne pas se couvrir. C'est-à-dire qu'il tournait ce qu'il allait monter. S'il avait l'idée d'une scène, il savait qu'il allait la faire en tant de plans et pas plus. Aujourd'hui, il y a des cinéastes qui se couvrent, c'est-à-dire qu'ils font 5 axes pour la même scène, pour être sûr d'avoir tous les angles, tous les axes, etc. Donc je ne sais pas comment ça se passait avec Selznick, parce que c'est une méthode quand même très particulière. Le film était monté dans sa tête. C'est très intéressant d'ailleurs de noter que, quand il a fait Soupçon, les producteurs, qui n'étaient pas Selznick, hein, c'était la RKO, étaient effarés par le premier montage. Ils avaient dit à Hitchcock, mais vous êtes fou, on va voir Coca et Grant et le meurtrier dans l'affaire. Et il a dit, mais moi, c'est la version du film. Donc ils l'ont remonté dans son dos et ils ont remonté avec ce qu'ils avaient sous la main. C'est le matériel qu'Hitchcock avait tourné.
C'est la tactique d'Hitchcock comme Ford, voilà, d'ailleurs,
de tourner pour, que ce qu'il a monté.
Comme il sait que c'est Selznick qui va monter le film au bout du compte, il vaut mieux ne tourner, monter et que Selznick ait le moins d'intervention possible.
Et la version courte de Soupçon durait 43 minutes. Donc la RKO a dit, bon, c'est pas possible, on peut pas sortir cette version-là, la version RKO, quoi. Donc ils ont laissé Hitchcock faire son film. Donc je sais pas comment ça se passait avec Selznick. Est-ce que Selznick se rendait compte qu'Hitchcock tournait comme ça, justement, avec une méthodologie qui lui interdisait de rapiécer le film au montage?
Oui, mais le film a été un peu rapiécé. C'est-à-dire que au montage, pas tellement, mais on voit, parce qu'on a le shooting script qui est plus ou moins définitif, et on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de différences très importantes par rapport au film tel qu'il a été réalisé, y compris des scènes retournées. Et je donne simplement un exemple. Dans ce script quasiment final, il était envisagé de revenir en conclusion à la voix over de la narratrice, comme dans l'ouverture. Et ça, ça a été complètement changé. Et l'ouverture elle-même était sensiblement différente de ce qu'on voit dans le film. Donc ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, Selznick aussi a dû regarder les rushs. Et je pense que il n'a rien fait tourner par quelqu'un d'autre que Hitchcock, mais il a insisté pour certains changements de dernière minute.
I watched you go down, just as I watched her a year ago. Even in the same dress, you couldn't compare.
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it. Why do you hate me? What have I done to you that you should ever hate me so?
You tried to take her place. You let him marry you. I've seen his face, his eyes, are the same as those first weeks after she died. I used to listen to him, walking up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.
I don't want to know. I don't want to know.
You thought you could be Mrs. de Winter.
live in her house. Walk in her steps. Take the things that were hers. But she's too strong for you. You can't fight her. No one ever got the better of her. Never, never. She was beaten in the end. But it wasn't a man. It wasn't a woman. It was the sea.
Oh, stop it. Stop it. Oh, stop it.
You're overwrought, madam. I've opened a window for you. A little air will do you good. Why don't you go? Why don't you leave Manderley? He doesn't need you. He's got his memories. He doesn't love you. He wants to be alone again with her. You've nothing to stay for. You've nothing to live for, really, have you? Look down there. It's easy, isn't it? Why don't you? Why don't you?
C'est l'image qui fait la couverture de votre livre, Jean-Loup Bourget, consacré à Rebecca, la terrible Mrs. Danvers, juste derrière Mrs., la seconde Mrs. de Winter, Judith Anderson et Joan Fontaine. Et on parlait d'emprise, film d'emprise tout à l'heure, là c'est l'emprise psychologique, presque démoniaque comme ça, où Mrs. Danvers va essayer de pousser la Mrs. de Winter par la fenêtre, mais sans la toucher. Pourquoi ne vous jetez-vous pas par la fenêtre? Tout sera beaucoup plus simple. C'est un film de domination, là encore.
Non, mais complètement. Mais là, moi, j'ai pas eu une seconde d'hésitation sur la couverture, justement, puisqu'il fallait choisir une image qui soit plus ou moins frappante et familière aux spectateurs. Pour moi, c'était forcément ce gros plan sur les visages des deux femmes et la tentative, effectivement, de la part de Mrs. Danvers, magnifique interprétation de Judith Anderson, de convaincre l'héroïne de se suicider. Bon, c'est ça qui fait l'intérêt vraiment du film. C'est ce côté gothique tempéré. Il y a rien de surnaturel, mais c'est une histoire de fantômes. Et c'est une série d'emprises, puisque il y a l'emprise que Rebecca manifestement exerçait sur Mrs. Danvers, qui a laissé, bien sûr, des années après Rebecca, mais la porte largement ouverte pour que non seulement des féministes, mais des lesbiennes militantes en concluent que Mrs. Danvers était amoureuse de Rebecca, ce qui se conçoit.
La scène de la nuisette est assez voilà, assez claire,
assez éloquente. Oui. Et l'emprise posthume, donc, Rebecca, qu'on ne voit jamais, sinon par certains signes, certains objets qui sont un peu des fétiches qui désignent à la fois son absence et sa présence fantomatique, exerce sur la jeune, la seconde Madame de Winter, qui a usurpé son nom, son titre, mais qui a bien du mal à entrer dans ce costume un petit peu trop grand pour elle.
On la voit apparaître aussi, Rebecca, par des mouvements de caméra de Hitchcock. Il y a cette scène extraordinaire de la confession de Maxime de Winter racontant comment Rebecca est morte réellement, et où les panoramiques et les travelling d'Hitchcock nous font voir, enfin font vraiment participer le spectateur. Mais je voudrais revenir sur cette dimension féminine, voire féministe du film de Hitchcock. C'est vrai qu'on a plutôt l'image de Hitchcock misogyne, torturant ses actrices, et ce qui n'est évidemment pas très bien vu ces jours-ci. C'est un extraordinaire film, en tout cas, qui est complètement sur le point de vue des femmes, Nicolas Saada, sur Rebecca.
Oui, c'est intéressant de se dire quand on repense à Hitchcock, on pense autant au personnage masculin qu'au personnage féminin. Moi, ce qui me passionne quand j'ai revu Rebecca récemment, c'était aussi une affiliation entre ce film et tout ce que va faire plus tard Val Lewton avec Turner. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi une influence de Rebecca sur le cinéma d'horreur gothique américain des années 40. Par exemple, Vaudou, A Walk with a Zombie de Jack Turner, c'est un cousin éloigné mais assez proche en même temps de Rebecca. Il y a la demeure, il y a le mari un peu perdu, il y a une nouvelle arrivante, il y a une voix off aussi au début de Vaudou comme au début de Rebecca. Je pense que le film, il invente deux genres, il invente effectivement ce genre de mélodrame féminin qui était plutôt réservé à des actrices un peu fortes comme Bette Davis ou John Crawford, et là on met sur le devant du film une actrice fragile.
Un personnage en détresse.
C'est très intéressant, ouais. Parce que c'est très beau, et l'empathie elle est absolue. Et la deuxième chose, c'est cet univers plastique, quoi, visuel. Il y a des choses sidérantes, il y a des plans dans Rebecca Sesnick qui peut rien faire là. C'est un plan d'Hitchcock.
Mais il y a des éléments même qui semblent venir du dessin animé, cette manière qu'a Mrs. Danvers de se déplacer. C'est-à-dire qu'elle, soit elle apparaît, elle est là, comme une apparition, soit elle glisse. On a l'impression que c'est sa première apparition quand John Fontaine va arriver au château de Manderley, et qu'elle va être présentée à toutes les domestiques qui sont là pour la juger. Enfin, c'est une scène extraordinaire. Judith Anderson apparaît comme ça sur le côté gauche et glisse. Comme déjà un fantôme, Mathieu Macherey.
Oui, il y a souvent chez Hitchcock, d'ailleurs, de ces idées graphiques, plastiques, immédiatement visuelles, qui sont liées, comme vous le dites Antoine, au dessin, à l'idée de dessin. Alors vous disiez bande dessinée, mais de croquis aussi, hein, des choses brossées comme ça, qui immédiatement s'affirment et sont évidentes. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, la récurrence des gros plans dans Rebecca, hein, qui viennent souligner. Oui, la présence jamais dite, jamais formalisée de fantômes, de spectres comme ça, du non-dit aussi, et puis peut-être aussi les pulsions qui affleurent et qu'on sent frémir comme ça doucement et qui se jouent aussi dans l'emprise des personnages sur l'autre. Et ce sont comme ça des idées immédiatement visuelles qui jaillissent et qui sont préhensibles immédiatement par le spectateur. Et ça, c'est un génie tout à fait particulier.
Alors, filmer la pulsion, l'inconscient, ça sera un des grands projets de la seconde collaboration entre Selznick et Hitchcock, qui n'aura pas lieu immédiatement.
Let's see. I kept thinking while I was dreaming that all this meant something. That there was some other meaning in it that I ought to find out.
We'll find out.
I can't make out just what sort of a place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. A man was walking around with a large pair of scissors cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room kissing everybody. She came to my table first.
Did you recognize this kissing bug?
I'm afraid she looked a little like Constance.
Uh-huh. This is plain, ordinary, wishful dreaming. Go on.
I was sitting there playing cards with a man who had a beard. I was dealing to him. Turned up a seven of clubs. He said, "That makes 21. I win." But when he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, "This is my place, and if I catch you cheating again, I'll fix you." I'm sorry about that kissing bug.
I'm glad you didn't dream of me as an egg beater, as one of my patients did.
Why, what would that mean?
Never mind.
Well, does it make any sense to you what I dreamed?
Not yet. You're trying to tell yourself something. What it is, we'll figure out later.
vous essayez de vous dire quelque chose. Le reste, on le comprendra plus tard. Séquence d'analyse de rêve, celui qu'on ne connaît encore que sous ses initiales, JB, on ne sait pas encore comment il s'appelle. Joué par Gregory Peck, raconte donc à Ingrid Bergman, à la fois son médecin et son amoureuse Constance Peterson. Il y a aussi le docteur Bruloff, une sorte de petit Freud qui est là dans son coin. Il raconte ce rêve extraordinaire de la maison du docteur Edwards, Spellbound. On est 5 ans plus tard, 5 ans après Rebecca. Hitchcock, pendant ces 5 années, a été loué par Selznick. À l'époque, on signait un contrat avec un producteur qui pouvait vous louer à d'autres studios, moyennant évidemment rémunération. Les studios sont la RKO, l'Universal, Fox. Et évidemment, il ne s'est pas vraiment tourné les pouces pendant ces 5 ans, Hitchcock, puisqu'il a réalisé rien moins que Correspondant 17, sa comédie du remariage Mr. and Mrs. Smith, Soupçon, Saboteur, Lifeboat, L'ombre d'un doute. Enfin, c'est effarant tout ce qu'il fait quand il n'est pas avec Selznick. Il fait 2 courts-métrages aussi en français, de propagande pour le ministère de l'information britannique. Il va monter, il va superviser le montage des images de libération des camps nazis tournées par les équipes anglaises, des images qui vont le frapper et qu'il gardera dans sa tête toute sa vie, racontera-t-il plus tard. Alors pour ce retour dans le giron de Selznick, Hitchcock avait comme projet, c'est ce qu'il raconte notamment à Truffaut, de tourner le premier film de psychanalyse. C'est surtout aussi le premier film avec peut-être la première grande actrice hitchcockienne, Ingrid Bergman. Et tout d'un coup, Ingrid Bergman emporte tout. Nicolas Saada, je vous vois les yeux émerveillés de l'évocation de Bergman.
Non, elle emporte tout. Moi, je suis certain, je trouve que c'est un film horriblement raté, Spellbound. C'est vraiment un des films d'Hitchcock que j'aime le moins. Et j'ai longtemps essayé de chercher à comprendre pourquoi, mais en fait, le cinéma américain, sa force, c'est qu'il a vraiment jamais peur de la métaphore ni du symbolique. Donc tout est symbolique et tout est métaphorique. Donc quand on commence à expliquer ce qui est l'essence même des images qu'il produit, ça peut pas marcher. Donc Spellbound, justement, c'est comme Hitchcock qui essaye d'expliquer pourquoi il produit des images qu'il fait. Il les produit parce qu'elles sont dans son inconscient. Donc d'un seul coup, rien n'accroche. Le sujet n'est pas du tout hitchcockien. En plus de ça, c'est un film dans lequel il y a des éclats. Et le problème, c'est quand on retient les éclats d'un film, ça veut dire qu'il est extrêmement distendu et qu'il a des moments faibles, quoi. On s'en rappelle pas pour sa totalité. Mais Ingrid Bergman dans le film, elle est juste splendide, elle est exceptionnelle. Et elle invente quelque chose aussi à nouveau. C'est une femme très libre, très affranchie, qui est beaucoup plus en force que le personnage masculin. Et d'ailleurs, je pense que Gregory Peck, qu'Hitchcock n'aimait pas, c'est en fait un acteur très féminin. Et c'est ça qui est très intéressant, même dans leur couple, dans le film. Et cette féminité de Gregory Peck, on la revoit aussi dans Le Procès Paradine. Et Hitchcock, je pense qu'il n'aimait pas Gregory Peck, mais il l'a filmé de manière très très intéressante à cause de ça.
Ah oui, il disait toujours, ce pauvre Gregory Peck n'a pas de regard. Mais c'est peut-être toujours le sujet quand on filme Gregory Peck, c'est quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il devrait voir. Grand sujet hitchcockien, là encore, Jean-Loup Bourget.
Oui, alors je suis désolé, je suis là en profond désaccord avec
ravi Colin.
J'entends bien, hein. Bien sûr, sur la psychanalyse, d'abord c'est absurde de la part de Hitchcock de dire je voulais faire le premier film sur la psychanalyse, Pabst avait fait ça 20 ans plus tôt, mais je trouve que c'est très intéressant, et cette séquence de Dali, bon, c'est l'idée de Hitchcock.
Voilà, il faut rappeler donc la séquence du rêve qu'on vient d'entendre, les images ont été conçues par Dali, et largement réduites par Selznick au montage.
Oui, mais c'est surtout aussi que, enfin, c'était l'idée de Hitchcock de faire appel à Dali, et Selznick était d'accord, il trouvait simplement que le prix de demandé par Dali était un peu élevé, ce qui, connaissant par ailleurs Avida Dollar, n'a rien d'étonnant. Mais moi je trouve, alors je voudrais dire brièvement 2 choses, c'est que Gregory Peck avait peut-être pas de regard, mais il avait une voix, comme on vient de l'entendre. Et le film a été un succès extraordinaire, notamment le retour des spectatrices qui découvraient cet acteur, qui était d'une grande beauté. Avec ce côté féminin, là, je suis entièrement d'accord, et cette voix. Et je trouve qu'il est très bon dans ce rôle parce que, en réalité, comme le dit Bruloff, et comme l'ont dit certains analystes assez perspicaces, il est totalement incroyable qu'il ne soit pas lui-même coupable, en tout cas complètement dérangé. mentalement. Et il faut vraiment la foi amoureuse du personnage d'Ingrid Bergman pour lui faire confiance. Et d'autre part, sur Ingrid Bergman, je voudrais dire à nouveau, ben, merci Selznick.
Oui, c'est lui qui fait venir Bergman.
C'est Selznick qui l'a fait venir pour et qui a produit Intermezzo en 39, remake d'un film suédois dans lequel Bergman était la star.
Mais ça, c'est la force de Selznick. C'est sa manière de prendre des risques. C'est-à-dire que comme il n'a pas accès directement aux stars parce qu'ils sont dans les studios, du coup, il se dit, je vais prendre des acteurs moins connus.
Il va les créer lui-même.
Et créer des stars. Et ça, c'est vraiment l'apport créatif d'un producteur. Absolument. Pour un réalisateur. Et c'est vrai que Hitchcock lui doit beaucoup. Il lui doit John Fontaine parce qu'il la reprend pour Soupçon, qui n'est pas un film Selznick, un film RKO. Ingrid Bergman, là aussi, il y a cette rencontre avec elle. Et il y a la prise de risque de Selznick, elle se fait davantage sur ses choix d'acteurs, ses choix de casting, que effectivement sur le travail du scénario qui est parfois très besogneux, très très fastidieux. Mais en revanche, quand il s'agit de prendre des décisions et prendre des risques, Selznick, c'est lui qui choisit une jeune comédienne anglaise pas très connue du grand public américain pour jouer Scarlett O'Hara. Donc il a quand même ce sens-là des choses, et ça apporte au réalisateur avec qui il travaille peut-être aussi un goût du risque.
Someone is coming. It's Alex, he's seen us.
Wait a minute. Let me kiss you.
No, he'll only think we...
That's what
no.
I want him to think.
You'd better stay upstairs, Judge, if they may need you.
Yes, sir.
Sorry to intrude on this tender scene.
I couldn't help what happened. He's been drinking.
So he carried you down here?
No, please, Alex.
You love him?
No, of course not. Please go.
For what it's worth, as an apology, your wife is telling the truth. I knew her before you, loved her before you. But I wasn't as lucky as you. Sorry, Alicia.
Please go.
Good night.
Alex, don't be foolish. I came down here because he threatened to make a scene unless I'd see him alone.
He kissed you.
I couldn't stop him. I tried.
We'll talk about it later. Your guests are upstairs. Do you please go to them?
Alors là, on est dans le chef-d'œuvre absolu, il n'y a rien à dire, c'est Les Enchaînés, évidemment. Le trio amoureux, Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Reims, et un baiser qui est... Alors, il y avait eu toute une publicité sur le plus long baiser de l'histoire du cinéma, le baiser de 2 minutes 30, qui est en fait tronçonné en petits morceaux de 3 secondes pour rentrer dans les règles du code Hays. Mais alors, ce baiser à la sortie de la cave à vin pour sauver l'amoureuse et la condamner en même temps est absolument... Rien à dire, Mathieu Macheret.
Oui, bah c'est... De toute façon, Les Enchaînés, c'est un des plus beaux films d'Hitchcock. C'est... François Truffaut disait que c'était la quintessence d'Hitchcock. C'est un film presque parfait, on peut... enfin, pour paraphraser un autre titre. Mais oui, alors il y a cette scène du baiser, mais on pense à des tas de plans complètement fous dans Les Enchaînés. Moi, je pense aussi à un plan qui est celui où une réception commence, on est en haut, en plongée, en haut de la pièce, et puis tout à coup, la caméra va se rapprocher comme une forme d'entonnoir pour prélever un détail qui est une clé dans la main d'Ingrid Bergman.
Oui, c'est un plan qu'il avait déjà testé dans Jeune et Innocent en faisant un travelling avant vers le visage avec un tic du tueur.
Il y a une façon de franchir les échelles comme ça qui est impressionnante. Enfin, plus globalement, Les Enchaînés, c'est un film qui mêle admirablement l'expérimentation formelle, il faut le dire, à aussi la perfection d'un suspense et d'une tension qui est unie toute la durée du film et qui mêle à la fois l'histoire amoureuse, le récit amoureux, un récit furieusement érotique, fusionnel de doute et de suspension entre deux êtres qui rentrent comme ça dans une espèce de passion, et puis le récit, je dirais, policier, entre guillemets. On ne sait plus très bien si l'enquête est sur l'amour entre ces deux personnages, Cary Grant et Ingrid Bergman, ou sur ce minerai qui est enfermé dans la cave d'un espion nazi, etc. Enfin, il y a une espèce de fusion absolue de tous ces éléments qui donne un film absolument fascinant.
Alors, si vous voulez expliquer à quelqu'un ce qu'est le MacGuffin chez Hitchcock, il faut lui montrer en particulier les enchaînés, c'est-à-dire la chose derrière laquelle tout le monde court, mais qui en fait n'a aucun d'autre intérêt que de faire courir tout le monde. Alors, dans les entretiens Nicolas Saada que vous aviez diffusé, donc sur France Culture, entre Hitchcock et Truffaut, Hitchcock est assez injuste avec Selznick, qui, sans jamais le nommer d'ailleurs, il dit oui, on avait un producteur avec qui on avait développé le projet, et puis cette histoire de bouteille avec de l'uranium dedans, il n'y croyait pas du tout. Il faut dire que tout ça se passe avant Hiroshima et Nagasaki, et que quand Hitchcock aura cette intuition de l'importance de l'uranium et de la bombe atomique, le FBI il va un peu aller regarder de près, mais comment est-ce qu'il a deviné tout ça. Mais il va dire que Selznick, résultat, a revendu le projet à la RKO, et c'est vraiment le package deal, hein. Il revend le scénario, le sujet, le réalisateur, les comédiens avec, il se garde quand même 50% des bénéfices, il n'est pas fou, Selznick. Mais en fait, à ce moment-là, il est en train de préparer Duel au soleil, et comme c'est un producteur indépendant, il ne peut pas tout faire en même temps.
Non, on va dire tant mieux pour Hitchcock là, ce coup-là, parce que c'est vrai que c'est un film.
Là, il a les coudées franches,
et c'est vrai que c'est un film. C'est un peu. C'est comme dire que le soleil brille dans le ciel lorsqu'il fait beau, de dire que Notorious est un des plus beaux films d'Hitchcock. C'est un film magnifique, et c'est un film en plus qui, là encore, invente quelque chose, parce que il y a même, je pense, des motifs de Notorious qu'on retrouve même plus tard dans les James Bond, hein. C'est-à-dire que c'est quand même un film qui invente aussi un nouveau genre de film d'espionnage.
Qu'on retrouve parfois même dans Les Espions, il me semble, un film de Nicolas Saada.
Oui, par exemple, mais aussi dans toute la littérature et dans tout le cinéma de la guerre froide. C'est-à-dire que c'est le premier film d'espionnage psychologique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de poursuites, il n'y a plus de traversées même géographiques, comme dans certains films d'Hitchcock, comme Les 39 Marches ou Saboteur. Là, on reste vraiment sur trois portraits, et c'est un film à la fois très intimiste, avec une ampleur, et aussi c'est un vrai film de genre. Moi, c'est un film qui me fascine aussi, parce qu'il est d'une économie incroyable, et ce qu'il y a toujours d'extraordinaire chez Hitchcock, c'est qu'un insert est aussi beau qu'un gros plan. C'est-à-dire que ça, on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission, mais il a un goût des objets, et il met en valeur les objets.
La tasse de café, clé.
Il passe, je pense, autant de temps à éclairer une clé ou une tasse de café qu'un visage, et c'est sa grande force. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la puissance émotionnelle de son cinéma. Mais je pense qu'aussi, Hitchcock, il a toujours comparé le cinéma à la musique, et qu'il y a quelque chose de très très musical et mélodique dans tous les films d'Hitchcock, même ceux que j'aime le moins. Et on peut dire d'une certaine manière que la musique, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et que le cinéma, c'est plan serré, plan large, gros plan, insert, et que d'une certaine manière, Hitchcock, il utilise les plans comme il utiliserait des notes, et qu'il y a quelque chose de totalement fascinant dans cette mélodie des images qu'on a sous les yeux quand on voit un film d'Hitchcock. Aujourd'hui, on est dans un cinéma qui est soit ultra monté, parce que c'est couvert sous tous les angles, et en plus il y a des effets spéciaux, soit dans une espèce de cinéma qui attrape le réel, et qui donc ne fait pas grand cas de cette idée du découpage et de l'organisation d'une scène dans l'espace. C'est maintenant, Hitchcock devient une sorte de vieille école par rapport à ce qu'on voit au cinéma aujourd'hui. Mais elle est indémodable. Elle est très inactuelle, c'est sa force aussi.
Alors évidemment, les enchaînés, on aurait pu faire toute l'émission dessus, tellement le film est extraordinaire, aussi parce qu'il y a un grand méchant. Hitchcock disait toujours, hein, c'est devenu le cliché hitchcockien, plus le méchant est réussi, plus le film l'est. Mais là, pour le coup, on a un méchant extraordinaire, parce qu'il est d'une complexité, d'une fragilité. C'est sans doute le méchant nazi le plus sympathique de toute l'histoire du cinéma, et sans doute surtout parce que dans le film, Claude Reims aime réellement Ingrid Bergman beaucoup plus que Cary Grant.
Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui est dit sur les enchaînés. En même temps, rappelons que techniquement, c'est pas un film produit par Selznick, c'est Hitchcock qui est producteur. Si le film avait eu l'Oscar serait allé à Hitchcock, contrairement à ce qui s'est passé pour Rebecca, évidemment. Mais d'autre part, si on réfléchit un peu, parler du personnage du méchant, effectivement, le très suave Claude Rains, acteur anglais, comme par hasard, il y a aussi sa mère, interprétée par Madame Constantin, grande actrice.
Une mère dominatrice, comme il y en a tant chez Hitchcock.
De théâtre européen, et qui est une sorte de reprise aussi de Mrs. Danvers. Et là encore, il y a quand même aussi à l'arrière-plan la littérature gothique, puisque là, vraiment, c'est encore le château de Barbe Bleue et la clé, comme par hasard, qui mène effectivement à la cave interdite. Il n'y a pas de cadavres. Si, il y a des cadavres, des bouteilles pleines d'uranium.
What is your name?
Madalena Anna Paradis.
And you're the widow of Richard Patrick Irving Paradis.
I am.
And what were your circumstances when you married him?
I was very poor. My life had been unpleasant and unattractive.
Truthful, isn't she? Very clever of Tony, you mean. He's just disarming the other side.
Had you no fear at the thought of spending your life with a blind man?
I thought it a splendid opportunity.
Opportunity?
Yes, I thought I will be his eyes.
Well, did you find it difficult to care for a blind man? To take care of him?
No.
He was never unkind to you?
Sometimes. But I understood. It was terrible for him being like that. It was easy to forgive him.
On the night of your husband's death, a quarrel took place at your London home in your husband's room?
Yes.
Will you tell the jury, please, what was the cause of that quarrel?
I had spoken to my husband about his valet Latour. I asked my husband to find another place for him.
Why was that?
Answer the question.
I did not wish Latour to stay in the house.
And why didn't you wish Latour to stay in the house?
I prefer that he shouldn't be there.
But why?
I did not like his manner with me.
And what was there in Latour's manner that you disliked?
I thought it sometimes too familiar.
Will you please explain exactly what you mean by that?
He took liberties.
Did he try to make love to you? Please answer. Did he try to make love to you?
Yes.
Interrogatoire à la barre de Madalena Paradis, Nalida Valli, par son avocat, Anthony Quinn, Gregory Peck, avec des interventions de l'extraordinaire Charles Laughton dans le rôle du juge, un rien concupiscent de ce film. Alors, c'est le dernier film produit par Selznick avec Hitchcock. Selznick signe aussi le scénario. Le film est mal aimé, je l'ai dit tout à l'heure, largement à cause de Hitchcock lui-même, qui en dit pique-pendre, notamment dans ses entretiens avec Truffaut, et pourtant c'est vraiment un film à revoir, ne serait-ce qu'à cause de ses relations étranges avec Rebecca, Jean-Loup Bourget.
Oui, c'est un film à revoir qui vaut mieux, je crois, que sa mauvaise réputation, mais cette mauvaise réputation, elle n'est pas non plus complètement infondée. Alida Valli, c'est encore une découverte de Selznick, mais faire passer Alida Valli pour une napolitaine nymphomane, moi, j'ai un peu de mal.
Il voulait Greta Garbo au départ.
Oui, mais voilà. Mais Alida Valli, c'est plutôt le modèle Greta Garbo. Elle est beaucoup mieux dans Le Troisième Homme. Enfin, beaucoup plus crédible que dans Paradis. Et alors, Peck à nouveau, Gregory Peck. On a un peu de mal aussi à croire que Gregory Peck est un grand avocat anglais. Il est trop jeune. Alors on a poudré.
Il a des mèches blanches sur les tempes.
Il porte la perruque, mais enfin, on voit bien que c'est quelqu'un qui vient de l'aristocratie américaine et pas britannique. Alors effectivement, heureusement, il y a Charles Laughton. Là, on y croit. Enfin, pour le reste, on a l'impression parfois, oui, que Selznick là a forcé Hitchcock à refaire quelque chose comme Rebecca. Et il y a une scène évidemment très frappante qui est pratiquement un plagiat, un auto-plagiat de la visite de John Fontaine à la chambre, à l'appartement mausolée de Rebecca, qui est Gregory Peck, qui pour des raisons un peu mystérieuses, va voir le domaine dans le Cumberland des Paradines et découvre la chambre où il est censé trouver des traces. On ne sait pas très bien si c'est du colonel Paradine ou plutôt, bien sûr, de sa veuve, Madame Paradine.
Oui, il va surtout regarder les sous-vêtements de Madame Paradine dans ses tiroirs.
Et la musique est de Franz Waxman, comme dans Rebecca, Waxman reprend même son propre thème.
Oui, il se cite
Rebecca.
Lui-même. Voilà. Alors, après ce dernier film avec Selznick, Hitchcock sera enfin libre. Il deviendra producteur avec son ami Sidney Bernstein. Il va fonder la Transatlantic Pictures. Il va y réaliser La Corde, Les Amants du Capricorne, Le Grand Alibi. Puis il se rendra compte que c'est difficile d'être producteur, que ses films ne marchent pas si bien. Et il va s'adosser à des grands studios comme la Warner et la Paramount. Et là, c'est la grande histoire d'Hitchcock à Hollywood. On en parlera certainement une autre fois dans Plan Large. Et on vous réinvitera en attendant le coffret DVD Blu-ray Ultra Collector Alfred Hitchcock, Les Années Selznick et son livre de 300 pages, La Conquête de l'Indépendance, est paru chez Carlotta, le cadeau indispensable pour Noël, évidemment. Merci Jean-Loup Bourget d'être venu nous en parler. Je rappelle que votre Rebecca est paru chez Vendémiaire. Merci aussi à Nicolas Saada de nous avoir rejoint malgré son grand état de fatigue au lendemain de 6 semaines de tournage de votre mini-série d'espionnage pour Arte. On verra s'il y a du Hitchcock dedans. Titre provisoire, titre de travail Thanksgiving. On va surveiller nos programmes et puis surtout, on a très envie de découvrir ce que vous aurez fait faire à notre cher Frédéric Wiseman, un de vos comédiens. Mathieu Macheret, vous restez avec nous, même si je vous sens très pressé de sauter dans un taxi.
All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me.
Drive a 48 and 6, please.
Man, you are gorgeous, brown, beautiful little girl.
Buddy,
I can't afford to get stopped anywhere.
Oh, yeah, you wouldn't let that thing happen.
I'll be a big tip in it for you. You do the right things. Oh. You got away. Yeah, now you're talking. Oh, driver, hurry up, will you?
Quel point commun, me demanderez-vous, entre le Hitchcock hollywoodien et la Palme d'Or du Festival de Cannes 1976 ? Bernard Herrmann, évidemment, une certaine dimension onirique aussi, pour ne pas dire complètement cauchemardesque. Alors il y a des films comme ça qu'on a tellement vus et sur lesquels on a tellement écrit qu'on pense qu'ils n'ont plus rien à nous dire. Évidemment, ce n'est pas le cas, il suffit parfois de les regarder à l'envers, comme dans un miroir, pour les voir tout autrement et découvrir qu'un film non seulement peut vous faire penser, mais pense par lui-même. C'est ce à quoi s'est attelé le directeur de l'action culturelle et éducative de la Cinémathèque française, ancien délégué général du Festival Entrevue de Belfort, cher à votre cœur, Mathieu Macheret, et ancien critique comme Nicolas Saada au Cahier du Cinéma, avec cette passionnante étude sur le Taxi Driver de Martin Scorsese qui vient de sortir aux toujours excellentes éditions Yellow No. Travis Bickle, comme on ne l'a jamais regardé, Mathieu Macheret.
Oui, alors est-ce qu'un film peut être trop vu, trop analysé? En tout cas, Taxi Driver, c'est vrai que il semblait avoir été un peu dévitalisé parce que il compte une série innombrable de scènes cultes. Il a été repris, cité à toutes les sauces au cours des décennies. Et puis, il a tout simplement intégré la culture populaire, hein, qui a fait de lui un objet familier, presque domestiqué, on pourrait presque dire inoffensif, bien loin en tout cas de l'odeur de soufre qui s'en est dégagée au moment de sa sortie en février 1976. Quelles sont ces images? Ce sont devenus des fétiches. Robert De Niro qui conduit son taxi dans la jungle new-yorkaise, qui psalmodie en voix off les ruminations de sa solitude, l'atmosphère électrique de New York, hein, sous tension, qui menace à chaque moment d'exploser, les montées et les descentes acides comme ça de la musique de Bernard Herrmann, la coupe iroquoise d'un De Niro qui devient complètement fou, ou encore une très jeune Jodie Foster qui fait le trottoir sur des semelles compensées. Enfin voilà, toutes ces images se sont vraiment gravées dans la mémoire collective et sont devenues, comme on l'a dit, des fétiches. Mais il arrive en effet qu'un ouvrage vienne relancer un peu la connaissance trop figé d'un film. C'est le cas de du petit livre que Bernard Benoliel consacre en effet à Taxi Driver. C'est un essai vif, synthétique, d'une petite centaine de pages, qui donne à revoir le film sous un angle nouveau, hein, fondé sur, c'est ce qui fait la force du livre, c'est un solide travail de documentation. Benoliel prend soin de tout recontextualiser, et l'auteur du livre réunit sous nos yeux, voilà, toutes les pièces qui peuvent être utiles à la compréhension souterraine, intime du film. Il reste au plus près de celui-ci et il les assemble très bien. Il commence par tourner autour du personnage de Travis Bickle, hein, le chauffeur de taxi joué par Robert De Niro, en lequel il perçoit un portrait en triptyque de ces trois inventeurs. Alors d'abord, le premier, ce serait Paul Schrader, qui, au moment d'écrire le scénario qui fera sa renommée, est en pleine dérive. Il est quitté par sa femme, il a perdu son emploi, il dort dans une voiture et il trouve l'idée du film lors d'un séjour à l'hôpital. Et il dira de ce scénario qu'il a jailli de lui comme un animal. Il y a aussi le jeune Martin Scorsese, qui a à peine 30 ans, qui est en ébullition au tournant de sa carrière et qui reconnaît dans ce personnage de Travis, tel qu'écrit par Schrader, une sorte de double. Hein. Il présentera comme ça sa découverte du scénario. « Je brûlais en le lisant à l'intérieur de ma peau ». Et puis enfin, Robert De Niro, encore fraîchement sorti de l'Acteur Studio, du cours aussi de Stella Adler, qui livre une prestation que Bernard Benoliel qualifie d'animal et qui déploie des trésors d'improvisation pour ce qui restera sans doute comme la scène la plus emblématique de sa carrière.
You make a move. You make a move. It's your move. Don't try it, you. You talking to me? You talking to me? Talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
C'est une scène incroyablement célèbre, où Travis, Robert De Niro, armé, s'adresse à un interlocuteur imaginaire devant son miroir, en lançant des « You talking to me, c'est à moi que tu parles ». Alors c'est là que Bernard Benoliel voit le cœur secret du film, hein, une sorte de vortex à travers lequel le film s'engouffre pour en ressortir sous une forme complètement inversée. Non seulement le miroir fait apparaître le double de Travis, c'est-à-dire une version libérée de lui-même, mais c'est tout le film qui passe avec Travis de l'autre côté du miroir. C'est une scène pivot qui déploie la puissance schizoïde du film et qui en donne comme ça une sorte de personnage dissocié, schizophrène, au sein duquel Bernard Benoliel perçoit plusieurs scénarios. Et ce personnage est traversé par plusieurs histoires, celle de son histoire amoureuse avec Betsy, jouée par Cybill Shepherd, le sauvetage providentiel de la prostituée Iris, le scénario phobique des macérations racistes du personnage, et puis son obsession paranoïaque, puisqu'il imagine bientôt assassiner un sénateur. Et toutes ces pistes dessinent un film qui se passe majoritairement dans la tête du protagoniste et qui dépasse le réalisme, qui va au-delà du réalisme vers un hyper-réalisme. Et le déchaînement de ce personnage, Bernard Benoliel y voit le déploiement d'une créativité. C'est assez étonnant, ce qui fait de lui un reflet inversé de l'artiste. Hein, un artiste qui se situe en dehors, au-delà du simple jugement moral. Et à travers lui, l'auteur plaide comme ça pour un scénario, un cinéma qui soit de plein pied dans l'ambiguïté morale, comme le meilleur cheminement pour comprendre les turpitudes humaines. Benoliel trouve une citation assez frappante à la fin de son ouvrage. « Les fans, les criminels, enfin les fous, les criminels, les poètes, ont une seule et même mission, assurer à la société un minimum d'insécurité. » C'est Hölderlin, et ça définit assez bien le propos de ce beau petit ouvrage.
Merci Mathieu Macheret. Taxi Driver de Martin Scorsese par Bernard Benoliel. C'est publié chez Yellow No dans sa collection Côté Film. Et méfiez-vous tous, car tous les animaux sortent la nuit. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Bruno Gagnère-Fontani. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Olivier Guérin et Somani Na. Mmh. La semaine prochaine, Plan Large partira à l'aventure dans les mers du Sud sur les traces de Robert Flaherty et Friedrich Murnau à l'occasion de la sortie en DVD Blu-ray de Tabou. Bernard Eisenschitz, Yves de Peretti et Michel Simon vous diront tout sur ce chef-d'œuvre de 1931.